BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Je suis très heureux de vous retrouver ici à l'Hippodrome de Longchamp pour le lancement officiel de la 6e saison de notre rendez-vous hebdomadaire de l'économie positive sur BFM Business chaque week-end. Alors comme de nombreuses émissions de la chaîne, eh bien nous sommes en effet à Longchamp où s'est tenue cette semaine la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Dans un instant, nous serons d'ailleurs avec Fabrice Le Sachet, c'est le vice-président du MEDEF, pour faire avec lui un tour d'horizon de la actualité économique et sociale de cette rentrée. Et puis pour cette émission de reprise, eh bien nous reviendrons également sur quelques bonnes nouvelles de l'été pour l'économie française, notamment la levée de fonds de 400 millions de dollars réalisée au tout début du mois d'août par Dataiku, la licorne d'origine française basée maintenant à New York. Mais Dataiku n'oublie pas ses racines et prévoit d'embaucher 400 personnes en France. Nous reparlerons également de la levée de 100 millions d'euros opérée par Spendex, une plateforme qui aide les entreprises à mieux suivre leurs dépenses. Enfin, nous évoquerons l'incroyable retour en grâce de la Méduse, cette sandale plastique qui depuis 75 ans a connu des hauts et des bas. Aujourd'hui, elle est redevenue 100% made in France, précisément 100% made in Maine-et-Loire. Et tout d'abord, donc, le sujet qui reste encore d'actualité en cette rentrée, bien, c'est le vaccin. Cet été, vous le savez, les Français se sont massivement, très massivement vaccinés. C'est bien, c'est très bien. Mais peut-être va-t-il falloir nous injecter une troisième dose, d'où le besoin massif de vaccins. Et dans ce domaine, malheureusement, bien, la France n'a pas eu tout pour réussir, même si on devrait pouvoir compter, vous le savez sans doute, sur le vaccin Sanofi et à terme également le vaccin Valneva. Valneva, c'est cette biotech de la région de Nantes qui, on s'en souvient, a dû aller frapper à la porte des Britanniques pour poursuivre son développement. Mathieu Pechberti nous rappelle les derniers épisodes du feuilleton Valneva, une start-up qui en fait est franco-autrichienne. Et juste après, on écoutera Franck Grimaud, c'est le directeur général de l'entreprise. Il était cette semaine l'invité de Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Sandra Grandouin.
C'est la dernière ligne droite avant que la biotech franco-autrichienne ne commercialise son vaccin très attendu. Les Britanniques seront tout naturellement les premiers servis et pour cause, le gouvernement de Boris Johnson mise sur la PME basée à Nantes depuis maintenant un an. Soucieux de diversifier ses approvisionnements, il lui a dès le départ déroulé le tapis rouge. Londres a apporté 470 millions d'euros à Valneva, de quoi financer l'avancée de ses recherches et l'extension d'une usine sur son territoire en Écosse. Une aide essentielle qui a fait la différence. En plein Brexit, le Royaume-Uni a ainsi pris l'avantage sur l'Union européenne, dont les négociations avec Valneva ont toujours patiné. Le lobbying de la France et même de l'Allemagne en faveur de Valneva ont été vains. Les Britanniques ont aussi profité de la lenteur des prises de décision de Bruxelles, que le patron de Moderna, le français Stéphane Bancel, avait lui aussi critiqué.
Votre vaccin, il va donc être commercialisé au Royaume-Uni, quoi, fin de l'année, début de l'année prochaine ?
Donc on l'espère effectivement, avec cette soumission progressive d'enregistrement, obtenir une autorisation finale avant la fin de cette année, donc pouvoir livrer les premières doses avant la fin de cette année.
Alors finalement, Franck Grimaud, vous arrivez avec Valneva avant Sanofi, hein, donc bravo quand même. Est-ce que c'est quand même pas trop tard, et pour Sanofi et pour vous, est-ce qu'on a besoin d'un nouveau vaccin contre la Covid ? Est-ce que ça pourrait être utilisé, votre vaccin, comme troisième dose de rappel ? Est-ce que ça va devenir un vaccin saisonnier comme la grippe, selon vous ?
Alors, c'est vrai qu'on voit... d'une certaine manière, malheureusement, qu'une vaccination, même massive en 2021, ne va pas tout résoudre. Hein. Donc, il va falloir que, au moins, probablement pendant quelques années, on ait une vaccination régulière. Donc, l'ensemble des vaccins, dont les nôtres, vont être utilisés sur plusieurs segments. On va dire maintenant, il faut qu'on vaccine les adolescents, il va falloir vacciner les enfants également. Et puis, il y a une partie de la population qui a préféré ou qui est un petit peu hésitant par rapport aux nouvelles technologies. Les vaccins de Sanofi comme le nôtre peut-être toucher un public un petit peu réfractaire. Et puis enfin, évidemment, même si en Europe on est très bien situé en nombre de doses, il va falloir vacciner
la planète,
très nombreux pays. Donc, exactement, il y a un usage très important.
Et nous voilà donc dans le studio de BFM Business, installé, vous le savez, au cœur de la REF à l'hippodrome de Longchamp toute cette semaine. Et notre premier invité de la rentrée, eh bien, c'est Fabrice Le Sachet. Bonjour Fabrice.
Bonjour Jérôme.
Vice-président du MEDEF. Et avant de faire ensemble donc un tour d'horizon des grands sujets de l'actualité économique de la rentrée, on va reparler de ce sujet que l'on vient de voir, donc Valvena. Pourquoi, selon vous, la France n'a pas eu tout pour réussir pour retenir cette biotech si prometteuse? Où étaient les trous dans la raquette?
C'est toujours un peu difficile de refaire le match, hein. Et puis ce qui nous intéresse, c'est d'améliorer la compétitivité de notre pays, quelles que soient les industries, parce que vous parlez des biotech, mais il y a d'autres pans de nos industries qu'on n'a pas réussi à retenir. Il y a des entrepreneurs qui doivent aller ailleurs pour lever des capitaux. Il est certain, mais on a fait des progrès, il est certain que lorsqu'on lève 50, 100, 200 millions, le marché des capitaux en France est un petit peu resserré. On n'avait pas assez de capital investissement. Ça change. Aujourd'hui, il y a quasiment 20 milliards d'euros par an qui sont investis par le capital investissement français. Donc, on a des fonds français. Mais je crois que c'est une bataille européenne. C'est une bataille européenne. Et puis, il y a une question de taille des marchés. Il y a une question de culture de l'innovation, de culture du risque. On a le fameux principe de précaution, qui est un principe un petit peu d'inaction, il faut le dire. Et donc, nous, on préférerait substituer ça au principe d'expérimentation, qui nous semble un principe de courage.
Et on souhaite en tout cas que Valvena puisse produire des vaccins à terme également pour les Français. Alors on en vient, Fabrice Le Sachet, à cette rentrée 2021. On s'était vu en cette même rentrée 2020, c'était un peu plus incertain. Là on sent clairement un vent d'optimisme qui souffle sur l'économie française. Le thème c'est à l'air libre, ce vent d'optimisme, vous le ressentez vraiment, vous, le représentant des patrons français?
Alors autant on n'était pas ultra pessimiste l'année dernière, hein, si vous vous en rappelez,
on était le MEDEF.
Oui, on était prudent, mais pas pessimiste. Si vous rappelez la REF l'année passée, le président Geoffroy Roux de Bézieux et le MEDEF avaient indiqué qu'on serait largement en deçà des 1 million de destructions d'emplois. Au début de la crise, on nous promettait un cataclysme, 1 million de destructions d'emplois. Nous, on était plus prudents. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de l'économie PowerPoint. On se fonde sur les remontées de nos adhérents, qui sont des entreprises. Et donc, on était un petit peu plus tempérés. Notamment parce que les filets de sécurité des aides, les compensations, ont permis de traverser cet épisode. Et puis parce qu'on a senti après le premier confinement que lors des confinements suivants, il y a eu quand même une adaptation de l'appareil productif. Je pense au bâtiment qui s'était complètement arrêté lors du premier confinement. Et on a vu que ce n'était pas du tout le cas après. Et aujourd'hui, on a d'autres problèmes qui ne sont pas des problèmes seulement ponctuels liés au Covid, mais les problématiques de recrutement, pénurie de main-d'œuvre. Qui aurait dit il y a un ou deux ans, enfin il y a deux ans aussi, puisqu'on avait déjà ces problèmes, mais il y a un an qu'on aurait ces problèmes-là. Et puis le prix des composants, des matériaux. Les matières premières qui sont une vraie difficulté, notamment sur certains chantiers, mais pas que les chantiers. Pour un certain nombre d'industriels.
Et cette pénurie des matières premières et cette difficulté de recrutement, ce sont vraiment, selon vous, les deux grands chantiers auxquels doit s'atteler le gouvernement dans les prochains mois ou même dès les prochaines semaines?
Parce qu'il y a des risques de tensions inflationnistes. Et donc, ce risque-là, si on souhaite le maîtriser, il faut absolument qu'on puisse avoir. Parce que les salaires, c'est une partie du coût de production, c'est la compétitivité coût. Donc si on a une augmentation trop massive et rapide des salaires, on peut déstabiliser des entreprises. Donc
il
y a des négociations salariales, entreprise par entreprise, qui permettent de faire les ajustements nécessaires, c'est tout à fait normal et logique, mais qu'il y ait une déstabilisation parce qu'on a une pénurie artificielle de main-d'œuvre et qu'on a de l'autre côté un chômage qui reste bien plus élevé que chez nos voisins, et c'est un scandale, cette trappe à chômage, et nous on se bat contre ça. Vous savez que c'est assez complexe, hein, c'est structurel. Absolument. Il y a la formation initiale, la formation continue, l'accès au logement, la mobilité géographique, la transition professionnelle, et sur tous ces sujets, le MEDEF a fait des propositions, a mené des actions, et donc on continuera.
Et qui sont écoutés, qui le seront encore en cette année présidentielle.
La prime pour les apprentis, par exemple, qui a permis quand même de faire rentrer pas mal de jeunes sur le marché de l'emploi, c'est une proposition du MEDEF en juin dernier.
Alors vous parliez du soutien aux entreprises, donc un des temps forts de cette REF a été la venue de Bruno Le Maire, c'était mercredi. Il a donc annoncé la fin officielle du quoi qu'il en coûte. On va réécouter le ministre de l'économie et juste après l'analyse de Thomas Sasportas.
Du moment où l'économie tourne à 99%, le quoi qu'il en coûte, c'est fini.
Oui.
En revanche,
le soutien sur mesure à ceux qui sont le plus impactés par la crise et qui sont le plus touchés par les mesures de restriction sanitaire, ça, il faut le poursuivre. Il ne faut pas débrancher brutalement le soutien des secteurs qui restent en grande difficulté.
Alors effectivement, les aides ne s'arrêtent pas non plus complètement du jour au lendemain. Bruno Le Maire vient de le dire, il va faire du sur-mesure, c'est-à-dire continuer à aider les secteurs qui sont toujours en souffrance, le 1% de l'économie française qui n'est pas reparti. Le ministre parle notamment des cinémas et de la grande distribution dans les centres commerciaux qui sont tous les deux pénalisés par le pass sanitaire. Mais pour le reste, le soutien généralisé à l'économie, ça, c'est fini. Et c'est la première question que se posaient ici les chefs d'entreprise en cette rentrée. Et puis l'autre dossier de la rentrée pour les patrons, c'est le plan d'investissement d'Emmanuel Macron, le plan France 2030. On parle de 20 à 30 milliards d'euros que le gouvernement va investir pour soutenir une dizaine de filières d'avenir. Mais autant les patrons sont désormais clairement fixés sur la fin du quoi qu'il en coûte, autant pour ce plan d'investissement, ils vont devoir attendre encore un petit peu. On nous avait promis des annonces pour la première semaine de septembre. Bruno Le Maire nous dit plutôt que les annonces auront lieu dans quelques semaines, le temps pour le président de la République de fixer précisément ses filières d'avenir et de faire les derniers arbitrages.
Alors à l'instant, Fabrice Le Sachet, Thomas Sasportas nous parlait de ce plan France 2030 avec des filières d'avenir à soutenir. Quelles sont selon vous les principales filières que ce plan devrait inclure ?
Déjà le constat, hein, on a loupé quelques virages. Je vous rappelle qu'il n'y a pas une société, je ne parle pas de la France, de l'Europe, une société européenne dans le top 50 mondial. Alors on n'a pas loupé tous les virages.
Heureusement.
On a par exemple dans le secteur du luxe, c'était quand même des PME, hein, Kering aujourd'hui, LVMH, oui, Chanel.
C'était une PME.
C'était des PME il y a 20-30 ans. Et donc là on a réussi, c'est nos GAFAM, hein, on a réussi à mondialiser ces entreprises, donc on est capable de le faire dans certains secteurs. Le problème, c'est que pour le moment, on reste sur des acquis industriels qui sont le fruit d'efforts engagés maintenant il y a un certain temps, l'aéronautique, le nucléaire, un certain nombre d'autres filières, l'agroalimentaire. Et même ces filières, d'ailleurs, doivent faire l'objet de rénovation, de transformation. Mais il faut qu'on réussisse à générer de nouvelles filières industrielles. Donc, c'est l'hydrogène vert, c'est l'intelligence artificielle qui touche évidemment l'industrie et tous les secteurs. C'est le calcul quantique, c'est un certain nombre de sujets très importants. Parce que si on veut que demain, par exemple, dans l'automobile, la France ne soit pas un centre de production d'habitacles et que les données soient aux États-Unis et que les batteries soient en Asie,
il faut faire de l'analyse de données.
Il faut qu'on génère ces filières. Et l'État, il a vocation à aider au démarrage ces innovations lorsque le privé ne peut pas y pallier parce que ce n'est pas rentable et c'est le rôle aussi de l'État.
Il nous reste 2 minutes, Fabrice Le Sachet. On va faire un petit tour des grands dossiers à venir. On est à 8 mois de la présidentielle. Je vais vous poser quelques questions. Alors, selon vous, pour que la France ait tout pour réussir, est-ce qu'il faut maintenir cette réforme de l'assurance chômage prévue au 1er octobre ?
Ouais, c'est super important. On a un taux de chômage qui, encore une fois, est assez scandaleux quand on y réfléchit. Et on a des gens éloignés du marché de l'emploi qui restent longtemps au chômage. Il faut faire absolument tout pour qu'ils soient formés et retrouvent un emploi rapidement. Et deuxièmement, il ne faut pas que des gens qui soient au chômage, ce n'est pas la majorité. Et c'est pas de leur faute,
ils gagnent plus
qu'en travaillant. Ou en tout cas, que l'écart soit trop faible pour inciter à reprendre un emploi. Alors même que nos entreprises recherchent quasiment 100-150 000 postes qui ne sont pas pourvus, c'est pas normal.
Pour que la France ait tout pour réussir, on engage très vite la réforme des retraites et le report de l'âge légal de départ à la retraite.
Alors on engage la réforme très vite, peut-être pas, parce que c'est une réforme systémique, c'est une réforme extrêmement importante. Vous savez que c'est la première dépense publique, 318 milliards, ça concerne tout le monde. Et aujourd'hui, on est en fin de mandat du président actuel. Ça nous semble quelque peu périlleux dans les circonstances actuelles. Et ce qu'il faut faire, c'est au cours de cette campagne avoir un moment de vérité sur cette question des retraites et qu'ensuite le prochain président, la nouvelle majorité, puisse mener à bien ce chantier avec, on sait qu'on devra travailler plus, avec des vraies mesures en la matière.
Pour que la France ait tout pour réussir, on va vers la décroissance, comme le prônent certains candidats à la primaire écologie, Europe Écologie Les Verts.
Non, mais ça, c'est vraiment une vieille lune, hein. Il y a toujours eu des décroissances. Ce débat n'est pas nouveau. La seule façon de réussir la transition climatique, c'est très rapidement de décarboner l'économie. Et ça, on va le faire avec des investissements massifs. On va le faire avec des capitaux, on va le faire avec des chercheurs, on va le faire avec de l'innovation. Et c'est ce que disait Geoffroy. Hein. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui font plus pour le climat que ces activistes qui passent leur temps à se plaindre, à gémir, à dire qu'on ne fait pas assez, alors qu'on le fait, on a les mains dans le cambouis, on le fait tous les jours, on n'a pas de leçons à recevoir. Et s'il faut se battre, il faut aussi se battre dans les pays où il y a des trajectoires d'augmentation des émissions et on les connaît. La Chine, l'Inde, sinon c'est un peu facile.
Mais aussi un peu plus près de nous, l'Allemagne aussi un peu plus que nous. Il nous reste quelques secondes vraiment pour que la France ait tout pour réussir en 2022. Quand on est dirigeant du MEDEF, on fait des prières pour un deuxième mandat d'Emmanuel Macron à l'Élysée.
Non, quand on est au MEDEF, déjà c'est pas un dirigeant, hein, c'est un mandat bénévole, c'est un engagement plutôt. On fait des prières pour son pays et plus que des prières, bah, on mène des actions parce qu'on est plutôt assez cartésien et rationnel et pragmatique. Et
vous donc
on se bouge les fesses.
Vous ne soutiendrez aucun candidat en 2022 ?
Mais le MEDEF, je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le MEDEF, c'est un mouvement qui est apolitique. Évidemment, il y a des partis politiques qui ont des propositions qui sont totalement aberrantes d'un point de vue économique. Et nous, ce qu'on combat, c'est pas un tel ou un tel, c'est des propositions qui sont néfastes pour les entreprises, puisque notre rôle de syndicat, c'est de défendre le développement de ces entreprises et à travers ça, des emplois et de notre pays. Donc oui, on se bat contre toutes les mesures, d'où qu'elles viennent, et quand elles sont bonnes, on le dit aussi.
Merci beaucoup Fabrice Le Sachet d'avoir été l'invité de cette première émission de rentrée de la
Merci
France
Jérôme.
À tout pour réussir. Et on va continuer à dérouler les temps forts et les bonnes nouvelles économiques de l'été avec cette très grosse levée de fonds, c'était au début du mois d'août, 400 millions de dollars pour Dataiku. Dataiku, c'est désormais un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle et de la data au service des entreprises. Et c'est une entreprise née en France en 2013 qui s'est ensuite installée très rapidement aux États-Unis. Retour sur le parcours à succès de Dataiku avec Nathan Cocampo.
Avec cette nouvelle levée de fonds, Dataiku compte renforcer encore un peu plus sa position de leader sur le marché de l'intelligence artificielle en entreprise. Finance, pharmacie, marketing, Dataiku vise tous les secteurs et avec des services de détection des fraudes, l'optimisation des chaînes logistiques ou encore la maintenance prédictive. Son objectif, renforcer l'usage de la data et de l'intelligence artificielle dans les entreprises, comme l'explique Romain Fouache, directeur des opérations et des revenus de Dataiku.
Toutes les entreprises peuvent en tirer parti, un peu de la même manière que dans les années 80 ou 90, on avait l'impression qu'avec une poignée d'entreprises pour qui utiliser des ordinateurs serait quelque chose d'important ou de différenciant. Et aujourd'hui, tout le monde travaille sur un ordinateur au quotidien, quelle que soit l'entreprise et quelle que soit la personne dans l'entreprise. La donnée et l'IA, c'est la même chose. Et effectivement, les entreprises commencent ou s'en sont rendues compte.
Fondé par 4 Français en 2013 à Paris, désormais installé aux États-Unis, Dataiku a connu une croissance exponentielle. C'est en 2019 qu'elle devient une licorne grâce à un investissement de Google. Elle revendique aujourd'hui plus de 450 clients à travers le monde, des grands groupes comme Pfizer, LVMH ou encore Unilever. Dataiku fait partie des entreprises qui sortent grandes gagnantes de la crise. Avec la pandémie, les sociétés ont accéléré leur digitalisation et leur utilisation de l'intelligence artificielle.
Et on le rappelait, Dataiku est né ici en France en 2013. L'entreprise emploie d'ailleurs dans notre pays la moitié de ses 750 collaborateurs. Et grâce à cette nouvelle levée de fonds, elle prévoit de recruter 700 à 800 personnes dans les 18 prochains mois, dont 400 rien qu'en France. On va revenir à présent sur une autre grosse levée de fonds de l'été, 100 millions d'euros par la fintech Spendesk qui développe pour ses 3000 clients, notamment des PME, des outils de suivi des dépenses et des achats. C'est évidemment très utile. Rodolphe Ardan, le président fondateur de Spendesk, était l'invité de Guillaume Paul et Audrey Maubert. C'était au mois de juillet à l'occasion de cette levée de fonds.
Spendesk équipe, donne finalement aux équipes financières une plateforme en SaaS qui leur permet de gérer l'ensemble des dépenses ou des achats de leurs collaborateurs.
C'est ça.
On simplifie ce process compliqué, très manuel, très bureaucratique, tout ce traitement de ces flux lorsque les collaborateurs ont besoin d'acheter quelque chose pour leur entreprise.
C'est ça.
Et voilà, on a vraiment créé cette entreprise en partant du constat que dans notre vie privée, c'est simple d'acheter, le paiement c'est transparent, c'est immédiat, on a l'habitude de cliquer sur un bouton et d'avoir des produits et services délivrés directement chez nous.
Mais dans l'entreprise, c'est un casse-tête.
C'est compliqué, c'est très bureaucratique, c'est très manuel et finalement, on est amené à faire des tâches qui n'ont rien à voir avec notre cœur de métier,
c'est ce que
Spendesk permet de libérer.
C'est l'un des héritages de cette crise, c'est la montée en puissance du télétravail qui va nécessiter cette accélération du besoin de digitalisation finalement.
Exactement. Si on prend un collaborateur qui se met à travailler chez lui, qui a besoin d'acheter un clavier d'ordinateur, dans sa vie privée, c'est quand même extrêmement simple. Et aujourd'hui, il est coincé. Il ne peut plus aller voir l'équipe financière pour pouvoir effectuer son achat. Et donc, c'est tout à fait ce que notre solution permet.
Donc, en face, on a des équipes qui continuent de courir effectivement après le salarié, les notes de frais et tout y quanti. C'est ça, finalement, l'histoire.
Finalement, les équipes financières, aujourd'hui, ils passent 60-70% de leur bande passante de leur temps à faire des tâches qui sont souvent de faible valeur ajoutée, aller récupérer des justificatifs, traiter de la donnée.
70% de leur temps, oui. c'est ça. Les tâches.
Et en utilisant une solution comme Spendesk, les équipes gagnent 20% de leur temps, c'est-à-dire vraiment une semaine par mois dans, dans le traitement de ces opérations qui sont très manuelles.
Vous venez nous voir ce matin, Rodolphe, parce que vous venez d'annoncer une levée de fonds de 100 millions d'euros auprès du fonds d'investissement General Atlantic. 100 millions, pour quoi faire? Pour continuer à vous développer, à grossir en France, un peu partout en Europe?
Alors, c'est une excellente nouvelle. On est très heureux de partager cette nouvelle levée de fonds. Oui, c'est vraiment pour nous, ça nous permet d'accélérer. On est sur un marché qui est juste gigantesque. On s'adresse aux PME, des entreprises entre 30 et 1000 collaborateurs. Aujourd'hui, on opère dans trois marchés stratégiques, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Ouais. Et des entreprises comme ça, il y en a plus d'un million. Il y en a plus d'un million. Aujourd'hui, on en sert plus de 3000. Mais le marché qu'on a à adresser est juste gigantesque. Donc, l'enjeu de cette levée de fonds, c'est vraiment de pouvoir accélérer, principalement en recrutant. On a besoin de talents. Aujourd'hui, on est une entreprise de 300 collaborateurs et on compte doubler nos effectifs d'ici fin 2022.
Et voilà encore avec Spendesk de très bonnes nouvelles sur le front de l'emploi. Autre bonne nouvelle, tombée celle-ci il y a deux semaines, eh bien c'est la bonne position de l'université de Paris-Saclay dans le célèbre classement de Shanghai qui est publié tous les 15 août. Cette année, Saclay gagne une place et se classe 13e. Sylvie Retailleau, la présidente de Paris-Saclay, est venue en parler au micro d'Emmanuel Le Chypre. C'était dans le grand journal de l'Écho.
Je pense qu'il faut se réjouir non seulement du classement de l'université Paris-Saclay, mais on ne peut pas avoir Paris-Saclay tout seul et je crois que ça reflète, et il y a plusieurs universités françaises très bien classées, la qualité de notre enseignement supérieur et recherche français.
Justement, Sylvie Retailleau, dans quel domaine est-on vraiment les champions du monde ?
Alors, champion du monde, en France, vous avez des universités très très bien classées comme Montpellier, hein, dans tout ce qui est environnement, écologie, etc. Donc, il y a beaucoup de niches et de pépites. Nous, à Saclay, on est assez fiers de notre première place en maths, en mathématiques. C'est vrai que les mathématiques d'Orsay, avec aussi l'IHES, l'Institut des hautes études scientifiques, et a toute une histoire hein, sur Orsay et sur Saclay. La physique aussi. Et puis, avec AgroParisTech, l'INRAE, on a l'agriculture qui est en très bonne place, la médecine clinique, 24e au monde, et puis l'ingénierie. C'est vrai qu'on a l'école centrale, mais la faculté des sciences d'Orsay a aussi des sciences pour l'ingénieur. Donc il y a beaucoup de disciplines. Aujourd'hui, on a la pharmacie et la chimie qui percent. Donc on voit qu'on a beaucoup de disciplines en France. Et aujourd'hui, pour répondre aux enjeux de la société, c'est important d'avoir beaucoup de disciplines parce que le caractère interdisciplinaire est vraiment fondamental.
Cet été a également été marqué, bien sûr, par les Jeux Olympiques et la plutôt bonne 8e position de la France au tableau des médailles. On attend, bien sûr, toujours beaucoup de nos athlètes aux Jeux Paralympiques qui se déroulent actuellement. Alors, dans 3 ans, vous le savez, bien, c'est ici même à Paris que se dérouleront les JO. Alors, outre l'enjeu de prestige, il y aura d'énormes enjeux économiques. Quel budget pour ces Jeux? Quelles infrastructures? Quelques éléments de réponse avec Virginie Cook.
Organiser des Jeux mémorables avec un budget maîtrisé, c'est l'objectif de Paris pour les JO 2024. Pour y parvenir, les épreuves vont en grande majorité se dérouler dans des équipements sportifs qui existent déjà, comme le Stade de France, Roland-Garros ou encore le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Michael Aloisio, directeur de cabinet du comité d'organisation des JO 2024.
On a passé un an avant d'être candidat à étudier tout ce qui avait marché et moins bien marché lors des éditions précédentes des Jeux. Et on a un modèle aujourd'hui avec 95% de sites qui existent déjà ou qui seront temporaires. On construit entre 10 et 15 fois moins que toutes les éditions précédentes.
Construire utile est le maître mot des organisateurs. Les principales infrastructures qui n'existent pas encore, le village des athlètes, le village des médias ou le centre aquatique, vont être érigés en Seine-Saint-Denis.
C'est des équipements qui ont du sens, du logement Seine-Saint-Denis avec le village des athlètes qui sera transformé en logement. Et on va rénover des équipements sportifs de proximité, une dizaine d'équipements sportifs également. Donc c'est important de comprendre que le coût de cet investissement-là, il n'est pas réalisé pour les Jeux, il est vraiment réalisé pour accompagner le développement de ce territoire.
Plus de 3 milliards d'euros vont être alloués à la construction de ces sites pour les JO, financés principalement par des fonds publics.
Et on va terminer cette émission de rentrée, toujours ici à l'Hippodrome de Longchamp, à la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, avec un thème que l'on aime tout particulièrement dans la France à tout pour réussir, ce sont les relocalisations. Et pour l'illustrer, eh bien, on va parler des méduses. Les célèbres sandales plastiques viennent de fêter leurs 75 ans. Elles sont nées en 1946, donc près de Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Ensuite, il y a eu des hauts pendant près de 40 ans, puis des bas. Et puis à nouveau des hauts, avec en plus le retour très à la mode et inattendu de ces sandales, pas forcément très jolies, il faut bien le dire, mais comme on dit dans le Père Noël, est une ordure, et bien scellée, mais c'est confortable. En tout cas, direction le Maine-et-Loire, où est produite depuis 2015 la Méduse, et c'est un reportage La France qui résiste, signé Justine Vassogne.
Aujourd'hui, on est à Beaupro en Mauges, dans le Maine-et-Loire, devant l'usine de la marque Méduse. Vous savez, ces sandales en plastique que l'on met à la plage, elles étaient un peu tombées aux oubliettes, mais ces dernières années, les Méduses reviennent à la mode. On va voir ça. Ce matin, dans l'usine de Beaupro en Mauges, le carrousel d'injection tourne à plein régime. Des sandales méduses en sortent toutes les minutes. L'histoire de la méduse commence un peu par hasard. C'est un coutelier, Jean Dauphan, qui en a eu l'idée il y a 75 ans dans un petit village d'Auvergne, Sarret. Anne-Céline Humeau est l'actuelle patronne de la marque.
Donc en 1946, c'était le début de la matière plastique. Et M. Dauphan avait reçu de la matière plastique qui était beaucoup trop souple pour faire des couteaux. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de fabriquer des chaussures et non pas des couteaux.
Ainsi naît ce qui s'appelle à l'époque la sarrésienne. La sandale n'a pas bougé d'un iota en 75 ans. Même forme arrondie, même tressage, même semelle à picot. Au début des années 50, le succès est quasiment immédiat.
Très rapidement, elle connaît un succès fort, notamment sur les plages avec les pêcheurs. Et puis c'est aussi la période des premiers congés payés, du bikini. Et donc à cette période-là, ben voilà, il y a une affluence sur les plages et c'est l'objet idéal de la plage.
Un succès qui ne se dément pas jusqu'aux années 90, mais alors la sandale fabriquée en France ne peut pas rivaliser avec la concurrence, notamment asiatique. Elle souffre aussi face aux très nombreuses contrefaçons. La méduse est sans arrêt copiée. En 2001, Plastique Auvergne, qui confectionne la sandale, met la clé sous la porte. L'entreprise est reprise par le groupe familial Humeau Beaupro, qui la relance en deux temps. L'idée, c'est d'abord de sauver la marque en délocalisant la production au Maroc. 10 ans plus tard, c'est l'heure de la relance.
En 2010, on relance la marque d'abord par la diversification pour en faire une marque globale et donc faire des bottes, des bottines, qu'on puisse avoir aussi méduse, non seulement l'été, mais qu'on puisse aussi porter de la méduse en hiver. Et puis ensuite, c'est la relocalisation qui vient après.
En 2015, la production de la méduse est rapatriée en France, à Beaupro en Mauges. Son prix augmente de 2 euros, mais cela ne gâche rien. En 2010, 130 000 méduses étaient vendues par an. Cette année, ce sera 500 000. On ne porte plus seulement les sandales pour éviter de se blesser sur les rochers à la plage. Elles sont devenues un accessoire de mode.
On peut porter la sandale avec un jean, avec une petite jupe, avec une robe. En Corée, les portent avec des chaussettes.
Julien Doré, dans l'un de ses derniers clips, la fièvre les arbore aussi fièrement. Le prochain défi d'Anne-Céline Humeau, partir à la conquête du marché nord-américain. Elle assure avoir déjà quelques touches.
Voilà donc longue, très longue vie à la méduse française qui fête en beauté ses 75 ans. Notre émission, elle, célèbre ses 5 ans. En route donc pour la 6e saison. On se retrouve le week-end prochain dans le studio BFM après ce bien agréable crochet par la REF ici à l'Hippodrome de Longchamp. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine, une très bonne rentrée et à très vite sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.